En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Pas sûr du tout de rapprocher l'auditoire de notre époque, mais en tout cas, en considérant les trois premiers siècles de l'Empire romain, période d'émergence du christianisme, de changer la problématique qui a été la nôtre jusqu'ici, puisqu'il s'agit de se demander si la guerre peut être rejetée pour des raisons religieuses ou même pour la nature intrinsèque d'une religion. En effet, c'est une opinion généralement répandue que les évangiles illustrent le principe de non-violence et que les chrétiens sont demeurés fidèles à cet idéal jusqu'à ce que le christianisme évolue en religion d'empire à partir du règne de Constantin au IVe siècle. Thomas Römer, hier, a rappelé à très juste titre l'importance de ce tournant. L'idée que les premiers chrétiens ont été naturellement donc des objecteurs de conscience a pu ainsi s'imposer chez certains modernes qui, à la suite de Gibbon, n'ont pas hésité donc à leur imputer la chute de l'Empire romain, la christianisation de l'Empire, entraînant donc le refus de participer à la guerre à sa défense. Quand le monde est devenu chrétien, les citoyens se seraient détournés du service militaire et auraient abandonné la défense de l'Empire contre les invasions barbares. Le pacifisme serait donc un trait originel et essentiel du christianisme authentique, celui des premiers siècles, avant qu'il ne devienne religion d'empire, un des éléments majeurs de la rupture que cette religion nouvelle introduit dans la civilisation antique. Pourtant, l'inventaire des sources chrétiennes rend perplexe. Maintenant, on possède de tableaux statistiques très bien faits. On remarque d'abord que les pères de l'Église se sont peu intéressés au problème de la guerre, ni avant Constantin, ni même après. Ensuite, les auteurs chrétiens, considérés ordinairement comme antimilitaristes, tels que Tertullien, déjà évoqué, Origène, Ambroise ou Prudence, ne s'en tiennent pas toujours au même point de vue au fil de leurs œuvres. La question des rapports des premiers chrétiens à la guerre est donc une question complexe, heureusement éclairée depuis peu par une documentation directe, épigraphique et archéologique, certes rare ou rarissime, mais quand même significative. Donc, bien sûr, il faut revenir d'abord sur les principes évangéliques, en remarquant que la prédication de Jésus ne traite jamais de la guerre directement, et il ne faut pas oublier d'ailleurs que Jésus vécut et prêcha dans une période de paix, même pour la Judée, ce qui le distingue de ses autres prophètes de renouveau impliqués dans une spirale de violence auquel on a voulu parfois le comparer, en particulier dans les années 1970-80. Cependant, la prédication de Jésus est présentée par les apôtres, dans l'Épître aux Éphésiens, par exemple, comme l'évangile de la paix. La naissance de Jésus est la révélation de la paix messianique, paix aux hommes de bonne volonté, qui devient le signe de reconnaissance des apparitions post-pascales. Le Christ ressuscité et les apôtres échangent un geste de paix et une salutation de paix. Une catéchèse pacifiste et même non violente s'est incontestablement maintenue jusqu'à la fin du IIe siècle, qui développait le discours des béatitudes et par là même la remise en cause d'un des principes bibliques de la loi du talion en substituant la paix à la haine, la prière, pardon, à la haine des ennemis. Mais, dans le contexte très important, comme le rappelait hier aussi Thomas Römer, la haine et la violence ne sont envisagées que dans le domaine strictement religieux, dans le cadre explicite de persécution, sans prendre donc la question de la guerre dans son ensemble. La question du port d'armes et donc du métier militaire est cependant posée à partir d'une scène emblématique que les quatre évangiles ont conservée, chacun avec des nuances diverses. Au moment de son arrestation par une troupe armée de gourdins dans le jardin des Oliviers, Jésus refuse de se défendre et interdit de recourir à la violence pour instaurer le royaume de Dieu, puisqu'il ne consent pas à solliciter les armées célestes. Un disciple a cependant tiré l'épée, qui est identifiée dans un des récits avec Pierre. Dans un autre récit, Jésus efface immédiatement son geste de violence en guérissant tout de suite les blessures ainsi causées. Et surtout, il désarme le disciple, geste qui peut apparaître hautement symbolique et significatif de ce que signifie l'adhésion au Christ. S'il y a derrière un motif idéologique exprimé, c'est que la guerre est meurtrière. Je cite « Tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée ». Cette scène évangélique marque une rupture avec le judaïsme, avec l'intervention donc de ces armées angéliques au sein des combats humains, comme du combat eschatologique, ce que rappelait M. Filonenko immédiatement. C'est une rupture avec le judaïsme, puisque Jésus, dans cette scène, n'envisage pas l'intervention de ces armées célestes, dont l'apparition signale dans la Bible que la guerre est juste et qu'elle est menée par Dieu. Mais Jésus ne remet pas pour autant en cause le service militaire, comme le prouvent plusieurs scènes de rencontres avec des centurions au fil des évangiles et des actes des apôtres. Aux soldats qui viennent demander à Jean le Baptiste ce qu'ils doivent faire, il est répondu qu'il faut se garder de toute violence, molestation ou prévarication, mais il n'est pas question d'abandonner le métier des armes. Simplement, il ne s'agit plus d'en faire une source naturelle d'enrichissement. Un centurion qui est venu supplier Jésus et dont Jésus admire la foi est reconduit dans son état antérieur, rentre chez toi. La figure correspondante des actes des apôtres, celle du centurion Corneille, baptisé par Pierre, est construite de façon à démontrer que le métier militaire n'est pas incompatible avec une pratique religieuse exigeante. Mais il est vrai, il faut le souligner, je crois, que ces récits néo-testamentaires mettent en scène des officiers et des soldats des troupes d'occupation et non pas d'unités de combat, et que ce n'est quand même pas la même chose d'être soldat en temps de paix et en temps de guerre. Les théologiens et les premiers conciles établiront la différence qui fait intervenir évidemment la question de l'effusion de sang. Plus généralement quand même, les évangiles intègrent l'éventualité de la guerre dans le discours de Jésus et les auteurs chrétiens des deux premiers siècles acceptent tous, après Paul, l'impérialisme romain, avec sa phase armée comme avec sa phase fiscale, légitimant implicitement les guerres de conquête, sans doute peut-on penser au nom de la paix romaine. La compatibilité entre l'engagement militaire et l'engagement au Christ n'apparaît donc que progressivement. Elle ne ressort pas de considérations éthiques sur la guerre, mais plutôt de la difficulté à servir deux maîtres, dans deux ordres de réalités différentes, celles d'ici-bas, qui sont celles de l'Empire romain, admis, et celles du royaume de Dieu. La réticence au service militaire se fonde alors sur le principe évangélique de la séparation entre l'ordre du politique et l'ordre eschatologique où se meuvent les chrétiens. Il faut rendre à l'empereur ce qui lui revient et à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est dans cette perspective eschatologique que Paul invente ce modèle du soldat du Christ, déjà évoqué. Le soldat du Christ qui livre le combat chrétien, la véritable, l'authentique forme de la guerre. Paul ne récuse pas les vertus militaires et les valeurs de l'éducation militaire dispensées dans l'Antiquité. Au contraire, il utilise métaphoriquement le lexique de la guerre et surtout la panoplie du soldat. Le chrétien revêt la cuirasse de la foi et le casque de l'espérance. Tels sont les armes de la lumière, on revient au même thème, nécessaires pour lutter contre les œuvres des ténèbres. Telle est l'armure de Dieu qui permet de combattre les manœuvres du diable et de mener le combat de la foi. En effet, le combat chrétien se situe sur un tout autre plan que la guerre classique. C'est un combat contre l'action des forces du mal dans le monde d'ici-bas et c'est là, encore une fois, que se situe la guerre véritable. La communauté religieuse, pour Paul, est comparée à une communauté militaire, un polytema, et il emploie la métaphore du prisonnier de guerre pour désigner les chrétiens persécutés et incarcérés pour leur foi. L'expérience de la guerre est alors utilisée du point de vue des victimes, mais dans une perspective valorisante. La figure du bon soldat du Christ, qui prend sa part des souffrances du Christ, apparaît dans les communautés pauliniennes de la deuxième ou troisième génération. Elle est articulée sur l'exigence d'une vie ascétique, voire même du martyr. Et elle est utilisée comme telle au tournant du 1er du 2e siècle par Clément de Rome, que vous avez cité, ou par Ignace d'Antioche, souvent en corrélation avec des persécutions ponctuelles. Le développement de ce thème, le bon soldat du Christ, atteint son apogée dans la prédication et les lettres de Cyprien de Carthage au milieu du IIIe siècle. Cela a contribué peut-être à créer les conditions d'un débat sur le métier militaire et sur la guerre à cette période tournant de la fin du IIe siècle et surtout début du IIIe siècle, ce IIIe siècle que des modernes n'ont pas hésité à considérer comme le siècle de l'objection de conscience. C'est donc le deuxième point que j'envisagerai. Le IIIe siècle fut-il pour les chrétiens le siècle de l'objection de conscience, ou plus généralement, le siècle de l'invention de l'objection de conscience. Les sources sont multiples et diverses. À la fin du IIe siècle, vers 180, le discours véritable de Cels, dirigé contre les chrétiens, déplore que ceux-ci abandonnent l'empereur face aux barbares, à propos d'une situation inédite mais qui va s'installer, celle de l'empereur, de la pression de l'ennemi barbare aux frontières et de l'empereur en première ligne sur le front. L'historiographie chrétienne combattit immédiatement cette accusation de désertion et de défaitisme en produisant une version christianisée de ce qu'on appelle le miracle de la pluie, qui est représenté, et on le voit toujours à Rome, sur la colonne de Marc Aurèle, un miracle bien documenté également par un historien romain comme Dion Cassius et par quelques autres sources. Ce miracle de la pluie apportant à boire à une armée assoiffée avait permis à l'armée impériale de survivre et de remporter la victoire durant la campagne de 172 contre les Sarmates. Selon les chrétiens, elle aurait été une réponse divine du Dieu des chrétiens à la prière des soldats chrétiens de l'armée. Ce fut peut-être un tournant dans le développement de la pensée chrétienne sur la guerre, légitimant sans ambiguïté une guerre défensive comme une guerre juste et associant à nouveau le sort de la religion chrétienne à celui de l'Empire romain. Cependant, cette conjoncture nouvelle et inédite a pu aussi contribuer à dégager davantage les chrétiens de l'obligation de loyalisme envers les autorités de l'Empire telles que Paul l'avait prescrite. La défaite essuyée par certains empereurs contre les barbares, comme celle de Valérien en 259, pouvait en effet s'expliquer comme un désaveu divin quand il s'agissait d'empereurs persécuteurs. Un désaveu divin selon la théologie biblique de la guerre, et cela permettait d'établir que la guerre que menaient ces empereurs persécuteurs par ailleurs, n'était pas une guerre juste. À partir de 250, et on le retrouve chez Lactance, les défaites impériales furent interprétées comme le châtiment divin d'empereurs persécuteurs. Ce qui n'apparaissait encore à la période apostolique que comme une tension, que comme un risque entre le service militaire et celui du Christ, est posé par Tertullien comme une antinomie irréductible qui oblige le converti à faire un choix. Le rhéteur de Carthage traite de la vie militaire dans deux traités, l'un sur la couronne, en tant qu'insigne honorifique du soldat, l'autre sur l'idolâtrie, concept que Tertullien utilise toujours de manière extensive. Ces deux traités présentent des différences et malheureusement, on ne sait pas lequel est antérieur à l'autre. Mais ils s'accordent au moins sur des incompatibilités essentielles entre l'appartenance chrétienne et la vie militaire. On ne peut prêter deux serments d'allégeance, on ne peut se mobiliser à la fois dans le corps du Christ et dans celui des ténèbres, on ne peut pratiquer le culte des enseignes et s'identifier par la croix du Christ. Cette alternative est présentée de façon dramatique dans un récit de martyrs palestiniens transmis par Eusèbe de Césarée et attribué aux années 260. À Marinus, dont un camarade contestait la promotion comme centurion au motif qu'il était chrétien, jusque-là il était soldat chrétien sans problème, et au motif qu'il ne pourrait, centurion chrétien, assumer les obligations cultuelles des officiers, à Marinus, donc, qui se préparait à accepter malgré tout cette promotion, son évêque donna à choisir le glaive ou la Bible. La question du choix est reprise dans les mêmes termes par Hippolyte de Rome. En considérant le défi qui est posé aux chrétiens de vivre selon sa foi tout en restant dans le monde, un monde qu'il ne partage pas, il répond par l'interdiction du jus gladii, c'est-à-dire de la peine de mort, de la mise à mort. Par ailleurs, comme Tertullien, Hippolyte juge impossible qu'un catéchumène ou un nouveau converti s'engage dans l'armée sous peine d'excommunication, toujours au motif du serment à l'empereur et de la double allégeance. Origène d'Alexandrie, dans sa réponse à Cels vers 248, accepte l'éventualité d'une guerre juste, en particulier dans le cas d'opérations défensives. Mais, pour les chrétiens, dans la ligne des béatitudes, il substitue l'efficacité de la prière à celle du combat armé, et surtout, ce qui est nouveau, il justifie l'objection de conscience au motif du sang versé, ce sang qui souille les mains de celui qui l'a versé. La guerre est meurtrière, je cite, car on y tue autant qu'on le peut, et on prétend le faire au nom du bien public. Elle est donc condamnée en application du commandement biblique divin qui interdit l'homicide. Origène est le seul ou presque, parmi les auteurs chrétiens des premiers siècles, à introduire ainsi un débat éthique sur la violence de la guerre, mais il bute sur la difficulté à trouver une voie moyenne entre l'idéal évangélique, celui des béatitudes, et les exigences de la paix romaine. Il y a et il y a eu des guerres justes, répète-t-il, en particulier celles qu'ont menées les Juifs par fidélité à leur foi. Pourtant, les chrétiens ne doivent pas participer eux-mêmes directement à des actes de violence. Parallèlement, le refus du métier militaire, du port des armes, est illustré par des figures de martyrs militaires qu'on a eu tendance à considérer dans les années 1970 comme le prototype des objecteurs de conscience. Ces récits sont pourtant tardifs. Non seulement ils sont tous rapportés à la tétrarchie et à la grande persécution entre 295 et 303, mais aussi donc ces récits ont été refaits et réécrits sans cesse, si bien que les plus célèbres d'entre eux, comme par exemple l'histoire de Saint-Maurice et de la Légion Thébaine, ne peut pas être datée avant l'extrême fin du IVe siècle. Et un autre récit également célèbre, comme les actes de Maximilien, appliqués donc à l'année 296, dans la version que nous possédons, est manifestement donc de la période byzantine, 7e ou 8e siècle, en fonction donc de détails sur l'armement et sur les signes du soldat qui ont été maintenant bien analysés. Dans les actes de Maximilien, c'est un jeune chrétien qui est présenté au recrutement par son père, donc un chrétien de naissance, si j'ose dire, qui refuse de s'engager au motif qu'on ne peut servir de maître et porter la marque impériale, la tessère de plomb, c'est là qu'il y a l'anachronisme flagrant, en même temps que le signe du Christ. Les actes de Marcel, également célèbres et souvent traduits, exposent un autre cas de figure. C'est un centurion converti qui refuse de s'associer aux réjouissances d'une fête impériale, jette ses armes et est condamné à mort pour manquement à la discipline militaire. En tout état de cause, seul Maximilien peut être considéré comme le prototype de l'objecteur de conscience. Marcel, comme Marinus, est resté dans l'armée après sa conversion jusqu'à être placé devant un choix décisif et incontournable, ce que veut illustrer le récit de son martyr. Et le dernier point, c'est que les autres martyrs militaires célèbres, Achille et Nérée à Rome, les martyrs de Lodi, les martyrs espagnols, ne sont finalement posés comme des modèles que très tardivement, quand le christianisme est véritablement devenu religion de l'Empire et religion dominante à l'extrême fin du IVe siècle, à travers donc une exaltation à la fois hagiographique et poétique de leur figure. Ce décalage oblige à se poser une question. Ces figures de martyrs militaires, soi-disant prototypes de l'objecteur de conscience, n'auraient-elles pas été surdimensionnées ? Et quand, puisque tous ces récits sont tardifs, et pourquoi ? Il importe maintenant de procéder à une lecture critique des sources textuelles, et mon approche s'inscrira de ce fait dans celle pratiquée hier matin par Thomas Römer. Le témoignage extérieur et indépendant de Cels établit avec certitude que le métier des armes et le refus du service militaire firent bien l'objet de débats à partir de la fin du IIe siècle. Mais s'agissait-il de débats entre chrétiens et non-chrétiens, ou de débat interne au christianisme. Il faut prendre en compte aujourd'hui le caractère très particulier de cette littérature d'extrait à laquelle appartient le contre-sels d'Origène. Suite de citations du philosophe romain sélectionné par le théologien chrétien pour être immédiatement réfutées. On prend davantage conscience aujourd'hui que ce mode d'écriture, ce mode de controverse, répond davantage aux objectifs de l'apologiste, le chrétien Origène, qui choisit ses thèmes plutôt qu'il n'exprime précisément le discours de l'accusateur, le romain Cels. Les opinions des chrétiens apparaissent en effet fluctuantes, d'autant que selon le témoignage des actes même de Maximilien, confirmé par le témoignage de l'historien Eusèbe, des témoins des chrétiens servaient dans les légions d'Afrique et ailleurs. La fonction des actes de martyrs est donc de présenter des modèles de constance et d'intransigeance à ceux qui risquaient sans cesse l'apostasie en demeurant chrétiens, soldats chrétiens. Deuxième point, dans cette lecture critique, on pourrait considérer que Tertullien et Origène représentent un christianisme radical et évidemment minoritaire. Le second fut lui-même, Origène, chrétien de naissance et fils de martyr, fut lui-même tenté par le martyr, auquel il substitua un idéal d'ascèse très poussé, allant jusqu'à la castration volontaire, ce qu'il appelait le martyr secret. Le premier, Tertullien, converti, s'est progressivement engagé dans un processus de conversion de plus en plus radical, jusqu'à rallier à la fin de sa vie la secte charismatique et rigoriste de la Nouvelle Prophétie, prêchée et fondée par Montan. Bien que toute conclusion ferme soit fragilisée par l'impossibilité où l'on est actuellement de déterminer lequel des deux ouvrages de Tertullien traitant du service militaire est postérieur à l'autre, il suggère quand même une évolution des positions du recteur de Carthage. Le problème, c'est qu'on ne sait pas dans quel sens. Le traité sur l'idolâtrie pose la compatibilité totale de l'appartenance chrétienne et de la vie chrétienne avec le service militaire. Et il établit la prédication de Jésus comme une rupture avec la tradition biblique et les guerres menées par le peuple d'Israël. Tandis que le traité sur la couronne ne s'appuie pas sur un principe d'incompatibilité absolue, peut-être pour des raisons pragmatiques, si on se souvient que Tertullien était lui-même un fils d'officier, et qu'il a pu être sensible aux exigences propres de la vie militaire et aussi à des ambiguïtés créées par des modèles concurrents tels que celui du soldat du Mitra, un autre modèle de théologique et métaphorique qui se généralise à l'époque. Dans tous les cas, le pragmatisme chrétien se manifeste par l'établissement d'une distinction inédite. Un chrétien ne peut ni ne doit devenir soldat, mais un soldat qui se convertit au christianisme n'a pas besoin de quitter l'armée, à moins d'être contraint à une pratique idolâtre, comme le port d'une couronne sacralisante ou la participation à des fêtes impériales. La seule incompatibilité alors retenue est de l'ordre de l'idolâtrie, du religieux et non de l'éthique. On voit combien est importante la contextualisation précise de ce que l'on risquerait de considérer superficiellement comme des positions de principe. Ce qui est vrai des traités d'apologétique l'est encore plus des récits de martyrs militaires. Concentrés à la fin du IVe siècle, à l'époque de Théodose, époque de christianisme triomphant et époque très militarisée, je crois, comme l'a souligné une fine étude de Jacques Fontaine, leur importance est de proposer un modèle, de montrer, de réagir à un mode de vie militarisé et mondanisé pour les chrétiens, alors que le christianisme est déjà bien engagé dans sa transformation en religion d'empire, mais aussi que les questions de pratiques idolâtres dans l'armée ne se posent désormais plus comme une obligation. Et là, donc, il s'agit de montrer que ces figures servent moins à illustrer et à fonder un idéal chrétien de non-violence qu'à fournir un contre-modèle au modèle social dominant, s'opposer à un nouveau type social de chrétien en lui rappelant que le nécessaire processus ascétique initié par la conversion et le baptême pour s'identifier au Christ. Et dans le cas de Prudence en particulier, on s'est demandé si ce n'était pas la démarche expiatoire d'un mondain repenti ayant exercé l'administration militaire et condamné à mort, et qui a donc participé de la violence légale exercée par les soldats de César. Certes, il n'y a pas identité de situation entre les soldats d'une armée idolâtre, telle que c'était au IIIe siècle, quand les cultes polythéistes occupaient la vie des camps, et les croisés marqués du signe christique engagés dans l'armée de Constantin. Mais les perspectives de théologie et d'anthropologie religieuse restent les mêmes. De Tertullien à Prudence, les réflexions sur le métier de soldat sont indissociables du besoin de rappeler la dimension eschatologique et la nature ascétique du christianisme, afin d'éviter toute compromission excessive avec le monde profane. Et ainsi, donc, on voit l'idéal du moine-soldat commencer déjà à poindre à vers ces quelques rares figures de martyrs militaires qui viennent illustrer le caractère radical de la conversion. Et c'est finalement à cet idéal de moine-soldat, de chrétien engagé dans la vie militaire et dans la défense, c'est cette figure que suggère le dernier point que j'envisagerai brièvement, en passant des textes aux réalités sociales, à travers quelques inscriptions autobiographiques de soldats chrétiens, datant tous de la fin du IIIe siècle de la période de la Tétrarchie, et également donc au moins d'une fouille archéologique. On possède donc tout trouvé en Phrygie, en Asie mineure, dans une région reculée, où des communautés qu'on pourrait qualifier de chrétiennes, qu'on pourrait qualifier de sectaires, très fermées sur elles-mêmes, se sont perpétuées ainsi que leurs documents jusqu'à la fin du IVe siècle. On possède donc dans ce milieu de christianisme fermé et rigoriste, trois inscriptions de soldats chrétiens. Le premier, Eugénios, donc, qui appartient à la très haute aristocratie, marié dans le milieu sénatorial, est sans doute un chrétien de naissance parce qu'il a été élu évêque immédiatement donc, lors de la paix de l'Église. Il a néanmoins servi au quartier général du gouverneur de Pisidie, encore une fois dans des troupes d'occupation et non pas dans une unité combattante. Il faut peut-être faire la différence. Et il a quitté le service volontairement lorsqu'il a été placé devant l'obligation de sacrifier aux divinités du polythéisme après l'édit de Maximin en 311 et après avoir été torturé au quartier général du gouverneur. Et il insiste donc à la fois sur son exercice du soldat, du métier militaire, jusqu'à un certain degré d'impossibilité, et également sur le fait qu'il quitte volontairement donc le service militaire, il a quitté l'armée en gardant la foi des chrétiens. On revient encore, bien qu'il s'agisse d'un milieu rigoriste comme l'était celui de Tertullien, il n'établit pas une incompatibilité de principe entre sa religion et le fait de servir l'empereur. La seule incompatibilité, cette fois encore, relève de l'idolâtrie et elle est donc transitoire. La carrière d'un autre, Domnos, est encore plus significative. Lui aussi appartient à une communauté chrétienne rigoriste et fermée, caractérisée par cette formule très caractéristique, funéraire, les chrétiens aux chrétiens. Pourtant, il est présenté par ses enfants, deux prêtres chrétiens, comme un soldat de valeur maintes fois distingué, qui a servi sans problème jusqu'à sa mort, à 60 ans, dans des unités combattantes, sans aucun indice qu'il ait quitté le service lors des idées de persécution et de pratiques sacrificielles obligatoires. Si on veut accorder ce cas particulier aux règles et aux interdits de Tertullien, il faudrait alors interpréter ce titre de grand soldat paré de toutes les vertus que lui donnent ses fils, qui sont des prêtres chrétiens, comme une image militaire du combat spirituel. Il reste aussi une incertitude, il s'est peut-être engagé seulement sous Constantin quand la question des pratiques idolâtres ne se posait plus. Il y a des dates sont à déterminer. Mais l'incertitude de la date est levée dans le troisième cas, celui d'Aurelius Victor, lancier sous Dioclétien, qui a fait une belle carrière militaire, qui a combattu sur tous les fronts et dont l'appartenance chrétienne se manifeste par sa formule d'inhumation jusqu'à la résurrection, et par le décor chrétien de sa stèle. Lui aussi, donc, a survécu aux édits de 301, obligeant à sacrifier. Peut-être à ce moment-là a-t-il démissionné ou s'est-il mis en retrait. Aujourd'hui, c'est l'archéologie, finalement, dans les dernières années, qui confirme les plus anciens historiens de l'Église en attestant qu'un groupe de soldats chrétiens ou qu'un groupe de soldats pouvait vivre en chrétien et pratiquer sa religion dans un camp légionnaire pendant une assez longue période. Ce qui nous l'a fait connaître depuis 2005, ce sont les fouilles de Megiddo en Galilée qui ont mis au jour dans le camp romain de Carpacotna un lieu de réunion des chrétiens identifié par une mosaïque ornée de poissons offerte par un centurion et par une table eucharistique dédiée à Dieu Jésus-Christ. Au IIIe siècle, il y avait donc des chrétiens parmi les légionnaires, y compris des officiers, malgré les réserves de Tertullien, et ils disposaient d'un local assez vaste et spécialement aménagé dans une aile indépendante de la maison militaire du prétoire. Il n'apparaît pas que ce local liturgique ait été démantelé lors des édits de persécution et de l'épuration de l'armée sous Dioclétien, mais plutôt abandonné quand la Légion fut déplacée. Je termine. Les documents attestent donc qu'on pouvait être soldat et chrétien, même à l'époque du polythéisme officiel, être chrétien et faire la guerre dans des unités combattantes, même si ces études de cas laissent subsister quelques zones d'ombre. Et enfin, surtout, être chrétien et fier de l'être, ce qui est sans doute le plus significatif, même s'il y a des incertitudes de période. Même s'il s'agit de soldats chrétiens quittant l'armée lors des actes polythéistes obligatoires ou convertis sous Constantin, aucun ne renie son passé militaire, loin de là. Ils sont fiers d'être chrétiens, ils ont été des grands soldats, ils ont servi dans l'armée avec distinction, ils sont, ils le répètent, de grands soldats. Peut-on risquer quelques conclusions au terme du survol de ces textes chrétiens des trois premiers siècles? La première est sans doute que ce sont des raisons religieuses qui ont prédominé dans le refus du service militaire, à savoir des pratiques idolâtres qui étaient forcément destinées, dans l'esprit des chrétiens et l'espoir d'une conversion de l'Empire, à être transitoires. D'autre part, second point de conclusion, si on saisit bien des divergences dans la pensée chrétienne sur le recours à la violence et au port des armes, on n'a aucune preuve d'un débat de fond, interne au christianisme, sur la question de la guerre et du pacifisme, ni aucune raison de le circonscrire à une opposition entre courants radicaux et tendances pragmatiques à l'intérieur des communautés chrétiennes. L'élément le plus intéressant, ce qui ressort peut-être le plus clairement de l'enquête, c'est que le débat récurrent, certes, se concentre sur trois moments décisifs dans la construction de l'identité chrétienne. À la fin du 1er siècle, quand sont mis par écrit les évangiles, il s'agit de marquer par une catéchèse de paix la distinction avec le judaïsme, d'autant que ce dernier sort d'une guerre atroce et destructrice. Cette catéchèse de paix inspire un discours de principe jusqu'à la fin du 2e siècle, période fondatrice pour le christianisme, alors que disparaissent au bout de trois générations les témoins directs de l'âge apostolique, et tous les écrits qui traitent de l'incompatibilité ou de la compatibilité du métier militaire avec la vie chrétienne se concentrent sur cette période, alors que le christianisme s'institutionnalise dans une conjoncture qui pose au premier chef la légitimité de la guerre défensive. Enfin, le culte et l'exaltation des martyrs militaires au IVe siècle et même à la fin du IVe siècle est tout à fait anachronique et s'inscrit dans le contexte d'évolution du christianisme en religion d'État, en religion d'Empire, afin de mieux défendre le modèle du soldat du Christ et les enjeux véritables du combat chrétien. On en tire donc la conclusion finale que le christianisme des origines ne fut intrinsèquement ni pacifiste ni militariste, mais que l'attitude des chrétiens face à la guerre fut d'abord fonctionnelle dans le cadre de choix à faire qui était plus large. Il resterait à faire l'histoire de la construction d'un discours théologique sur la paix et la guerre, mais c'est une autre histoire.